Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Une partie de l'espèce humaine pourrait disparaître, c'est par cette nouvelle choc que commence le documentaire Demain, sorti en 2015 et ayant reçu en 2016 le César du meilleur documentaire. Un cri d'alarme suivi d'un tout autre parti que le catastrophisme, puisque ce documentaire fait le choix de mettre en valeur des initiatives aux quatre coins du globe de personnes ayant choisi des solutions innovantes et écologiques en matière d'agriculture, d'énergie, mais aussi de systèmes économiques, politiques et éducatifs. Un documentaire à voir absolument, rafraîchissant et plein d'espoir. Voilà pour cette émission ce matin du vendredi, donc une émission sur ce documentaire Demain, avec ce titre Demain, le docu sur le monde de nos enfants. En tout cas une partie de ce monde, puisque vous l'aurez compris, ce documentaire fait le choix de souligner des initiatives positives. Autour du plateau, Éric Saner, qui est cofondateur des Colibris de Toulouse, bonjour. Bonjour. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Patrick Gimena, vous êtes ancien conseiller général écologiste et élu vert de Colomiers, bonjour.
Bonjour.
Et Pierre Chastrus, vous êtes membre du CCFD Terre Solidaire, bonjour.
Bonjour.
CCFD Terre Solidaire, un peu plus connu de nos auditeurs. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et de ce film, puisque l'émission va consister en une espèce de rapide promenade, alors on essaiera de ne pas parler de tout pour que vous ayez encore l'eau à la bouche, peut-être vous pouvez présenter brièvement les Colibris et puis le CCFD Terre Solidaire, même si c'est plus connu de nos auditeurs. Allez-y, Éric Saner.
Oui, donc le mouvement Colibris a été fondé notamment par Pierre Rabhi.
Pierre Rabhi, alors on verra dans le documentaire qui intervient. Voilà, bon, ça vaut le coup de dire d'un mot qui sait, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est un peu compliqué de présenter Pierre Rabhi. Enfin, c'est quelqu'un qui a un fort engagement, enfin, autour de l'agroécologie et des solutions à la crise actuelle. Et en même temps, il défend l'idée qu'on peut pas changer le monde sans se changer soi-même. Voilà, ce qui est un peu une posture un peu unique parmi ces figures emblématiques du mouvement alternatif.
Voilà. Alors on en reparlera, c'est une espèce de père spirituel, d'une certaine manière, d'un certain nombre d'écologistes, y compris même de Nicolas Hulot qu'on connaît bien. Alors les Colibris, en quelques mots.
Les Colibris, en fait, c'est un mouvement citoyen qui a une triple vocation, qui est d'inspirer, de relier et de soutenir toutes les actions alternatives qui visent à rendre le monde plus écologique, plus humain. Et c'est un mouvement qui a une audience importante maintenant et qui essaye de construire concrètement des alternatives au quotidien avec les citoyens dans toute leur diversité.
Alors, on en reparlera au fur et à mesure des émissions. C'est pareil, dans deux, trois phrases, le CCFD, même si c'est plus connu.
Je retraduis les initiales, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Donc c'est à la fois un service de l'Église catholique en France et une organisation de solidarité internationale. Donc elle agit à la fois pour soutenir des projets dans une cinquantaine de pays différents, pays du Sud et pays de l'Est, et également ici pour faire des actions d'éducation à la solidarité, et également pour agir par des moyens de plaidoyer pour changer les politiques.
Et c'est une des principales ONG françaises, il faut le préciser aussi.
ONG de développement.
ONG de développement, pardon.
Pas d'urgence.
Alors, on ne présentera pas les élus verts, hein, voilà, ça se fera au fil de la conversation, on comprendra en tout cas la teneur de votre engagement. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec un premier extrait, qui est donc cette étude qui est citée au début du documentaire, même si on ne sait pas exactement de quelle étude il s'agit, on le commentera. Et donc, le contexte qui est posé immédiatement, dont on entend souvent parler, mais hélas, on a du mal à s'en persuader ou à réaliser.
A été publiée il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité.
A group of 21 scientists produced a special briefing for the journal Nature.
Climate change, destruction of the Earth's surface, and population growth are leading us to a tipping point.
Scientists say the biology of the Earth as we know it would be entirely changed. At a minimum, this change would be as severe as the last glacial shift some 11,000 years ago.
Are we on the verge of a mass extinction, like those global megadeaths of the deep past, where most species were wiped out in a geological heartbeat?
Il y a trois ans, Cyril est venu me parler de cette étude.
alors que j'étais encore enceinte. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement, où des villes entières pourraient être englouties par les océans. Elle suggérait qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître d'ici la fin du siècle.
À l'époque, je dirigeais une ONG et je n'avais jamais lu d'études aussi effrayantes. Pourtant, on était à peine quelques milliers dans les rues à défiler et personne n'avait vraiment l'air de réagir parmi les responsables politiques.
Alors on a décidé de réunir une équipe d'amis travaillant dans le cinéma. On leur a raconté le contenu de cette étude. Ils avaient presque tous des enfants, n'étaient pas tous écolos ni militants, mais aucun ne voulait rester les bras croisés devant une telle nouvelle. On voulait tous faire quelque chose.
Voilà, donc cette étude, c'est donc une étude de la revue Nature, qui est parue en 2012, d'une vingtaine de scientifiques, et qui donc annonce cette nouvelle catastrophique, qu'une partie de l'humanité pourrait disparaître à l'horizon 2100. Alors, est-ce que l'un ou l'autre, vous avez un commentaire là-dessus? Peut-être on peut commencer avec vous, Patrick Gimena. Disons que l'entrée en matière est plus que choc. Là, on voit le mur arriver.
Oui, c'est un véritable cri d'alarme. Mais tous les signaux sont au rouge. Je crois que les auditeurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, on a perdu les trois quarts de notre biodiversité, que le réchauffement climatique n'est pas une simple vue de l'esprit, que les études démontrent effectivement que notre système aujourd'hui est un système qui va droit dans le mur, et que si on ne change pas de cap, il ne s'agit pas de ralentir, mais il s'agit véritablement de changer de cap, de direction, et d'épouser d'autres modèles économiques, sociaux. Sur cette question de la crise, j'ai envie de faire référence à l'encyclique du pape, qui pour moi est un texte remarquable, parce qu'il parle d'une terre qui est blessée, et la terre qui est blessée rejoint le cri des pauvres. Et ce texte est remarquable puisqu'il nous invite aussi à comprendre la complexité de la situation. C'est-à-dire que dans les médias, on voit bien que on peut parler d'écologie. L'écologie, ce n'est pas simplement que la question du respect de la terre, même si c'est absolument fondamental, ou du vivant. Je crois qu'on est devant une crise civilisationnelle, une crise morale, et que cette crise aussi touche le social, l'économie, la politique, la démocratie. Et qu'aujourd'hui, on est devant un mur. La question, c'est de savoir qu'est-ce que les citoyens et les systèmes démocratiques dans lesquels nous vivons, ici ou ailleurs, entendent de faire justement de demain.
Alors, Eric Sanner, vous aviez un commentaire à ce sujet, en disant que vous étiez vraiment choqué par le fait qu'on passe son temps à parler de la primaire dans les médias, alors qu'il y a probablement un autre sujet plus grave, si cette étude est vraie.
Oui, alors, l'étude me semble absolument...
Elle est corroborée par d'autres études, ou c'est une qui est sortie comme ça?
Non, mais il n'y a qu'à regarder autour de soi. Je veux dire, il y a un tas de catastrophes ne serait-ce que le réchauffement climatique qui est parfois polémique. On voit bien qu'année à année, on bat des records de chaleur, etc. Bon, après, on peut polémiquer sur les conséquences à long terme. On voit bien qu'à court terme, déjà, il y a un certain nombre de catastrophes tous les jours. Et ça paraît normal. Enfin, voilà, on s'habitue à ce qu'il n'y ait plus d'eau, qu'il y ait des incendies, des cyclones, des catastrophes. Bon, on s'habitue.
Sur l'actualité, alors votre coup de gueule,
alors,
c'était quoi?
Alors, moi, ce que je trouvais, c'est, j'écoutais la radio ce matin, et puis bon, on parle de la primaire, etc. Et quelqu'un a dit oui, mais personne ne parle du fait qu'on a épuisé. Vous savez, il y a une espèce d'indicateur d'utilisation des ressources de la planète. On a épuisé les ressources de la planète disponibles pour une année, je crois fin août, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on vit à crédit. Voilà, on vit à crédit 4 ou 5 mois de l'année, et c'est évidemment complètement intolérable. Et cette information, elle passe complètement inaperçue. Personne ne s'en occupe. Il n'y a aucun relais de la part des politiques. Et on continue à foncer dans le mur en s'occupant de nos petits égaux.
Voilà. Pierre Chostreux, c'est un commentaire.
Oui, c'est vrai qu'on en a, on a beaucoup parlé de ceci au moment de la COP21. Hein, mais depuis, on s'est passé au deuxième plan. C'est vrai que la question à la fois de ce que le pape disait, la guerre mondiale en morceaux occupe beaucoup.
Troisième guerre mondiale
à morceaux. Donc, avec les déplacements de population, les menaces de ici, ça vient au premier plan aussi. Et ça occulte, mais également, si on creuse, on s'aperçoit aussi qu'il y a des, comme dit le pape par ailleurs, tout est lié. C'est-à-dire que, donc, à la fois, les situations de catastrophes climatiques touchent plus certains pays que d'autres, hein, et que également, par voie de conséquence, quand même, ceux qui sont moins touchés le sont à leur tour. Hein. Et ça, je crois que on va le percevoir. Bon, au niveau politique, il y a l'agenda qui continue, si l'on peut dire. Donc, on ne peut que se réjouir que ça reste au niveau international un objet de préoccupation, d'engagement. Hein. Donc, il y a des petits pas, mais le problème, c'est de savoir est-ce que ça va aller assez vite, justement, pour éviter la catastrophe que vous indiquez, c'est-à-dire, c'est pas une partie de l'humanité, c'est l'humanité entière qui est menacée. Bon, peut-être pas la planète sur le plan matériel, elle se transformera autrement, mais effectivement, ceux qui sont dessus ont à s'inquiéter.
Alors, peut-être un commentaire avant qu'on écoute un autre extrait et qu'on rentre dans le vif du sujet sur la COP21, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, nous on a fait pas mal d'émissions à l'occasion de la COP21, ça a été beaucoup dans les médias, et quand on en parle un peu autour de soi, on a l'impression que souvent c'est ça n'a pas servi à grand chose, etc. Donc, on a l'impression comme une espèce de désespoir collectif. Vous, Patrick Gémena, qui êtes en charge, donc, qui êtes élu vert de Colomiers et ancien conseiller général des questions écologistes, est-ce que vous avez suivi probablement la COP21? Est-ce que le résultat c'est bof? Ou qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs sur ce sujet?
Écoutez, pour moi, la COP21 a été un formidable exercice, je dirais, diplomatique. Maintenant, je suis un peu plus sceptique quant à l'avenir, puisque si c'est un formidable exercice démocratique, il faut aussi à un moment donné qu'il y ait des décisions politiques qui arrivent. Prenons le cas de la France. On a diminué par 10 les investissements dans les énergies renouvelables depuis la COP21. Je crois qu'il y a une espèce de contradiction entre les discours et les actes. Et donc aujourd'hui, à l'échelon mondial, on peut se réjouir effectivement que des pays prennent en compte la question climatique, la question écologique. Mais je reste beaucoup plus sceptique, je dirais, sur notre avenir. Pourquoi ? Parce que, on a fait référence à Pierre Rabhi. Je crois que la prise de conscience individuelle est absolument nécessaire, mais j'ai envie de dire qu'elle n'est pas suffisante. Il nous faut les deux. Il faut que les prises de conscience individuelles qui permettent de mieux manger, de mieux se vêtir, de mieux se loger, de mieux se nourrir, sont à nos portes. Mais il faut aussi que ça soit accompagné par de véritables plans, je dirais, et puis des décisions politiques à l'échelon national et à l'échelon international. Donc la COP21 a permis de révéler effectivement un certain nombre de choses, ça a sensibilisé la population.
Mais il n'y a pas de décision qui a été prise, il y a des décisions prises quand même.
Il y a des directions qui ont été prises, mais je crois qu'on est dans un tel système où la finance, qui est complètement déconnectée de l'économie réelle, où les enjeux géopolitiques, notamment autour de l'énergie, on va en parler, sont tels que ça ne sera pas à la hauteur de la situation dans laquelle nous sommes.
Alors, on va enchaîner. Le parti pris de ce film, c'est une fois que le constat posé, et d'ailleurs, il pose le constat de manière très rapide, puisqu'il cite juste cette étude, et ils vont interroger, je crois, l'un ou l'autre scientifique qui a publié cette étude. Voilà, pour les citer, je crois que c'est Anthony Barnowski et Elisabeth Aldi. Et après, ils rentrent dans le vif du sujet et ils montrent les solutions, aux quatre coins de la planète, des gens qui se bougent, on va dire. Alors, il n'y a pas besoin d'aller aux quatre coins de la planète, puisque pour le premier volet qui est abordé dans ce documentaire, qui est l'alimentation, ils sont allés près du Bec-et-Loin, donc abbaye en Normandie, avec donc des Français qui mettent en place ce qu'on appelle la permaculture. On va écouter un extrait et puis on va évidemment demander à nos invités de commenter ça.
Alors, on est parti à la recherche de ces petites fermes si productives dont nous parlait Olivier, pour voir par nous-mêmes si elles pouvaient réellement nourrir le monde. Et nous avons atterri au Bec-et-Loin, tout près de chez nous, dans une ferme en permaculture qui affichait des rendements absolument extraordinaires.
Nous, notre rêve avec Perrine, c'était de travailler un grand jardin et avec le moins de pétrole possible, si possible, pas de pétrole du tout. Actuellement, pour une calorie alimentaire qui arrive dans notre assiette, il faut 10 à 12 calories d'énergie fossile. Ce qui est une pure aberration, puisque on sait que demain ou après-demain, le pétrole sera beaucoup plus rare. Et pourtant, je pense qu'on a tous envie de continuer à manger. Donc, il faut qu'on invente des manières de se nourrir sans pétrole. C'est très important. Donc, c'est pas du tout une lubie de néo-ruraux de pratiquer une agriculture complètement manuelle. C'est une nécessité vitale pour nourrir l'humanité demain. Avec ce semoir de précision, tu vois, où je peux mettre 6 rangs de, je peux semer 6 rangs de légumes, en un aller-retour, je sème 12 rangs de petits légumes, là où un tracteur n'en cultiverait que 3. Et on va même plus loin parce que on refait ce que faisaient les maraîchers parisiens du 19e siècle. Avant la mécanisation, on fait des cultures associées. Donc je sème 12 rangs de carottes et dans la foulée, je vais semer 12 rangs de radis et puis repiquer, par exemple, en l'occurrence, 2 rangs de choux de Bruxelles. Et donc, sur 80 cm de large, j'ai 24 rangs de petits légumes et 2 rangs de choux. Et c'est l'un des secrets de la productivité qu'on a ici. C'est des outils innovants qui sont très simples, qui sont manuels, mais qui permettent de créer un rendement au mètre carré qui paraît complètement fou à un maraîcher, j'allais dire, normal. Et les poules, les poules, les poules!
Alors, le premier exemple, c'est donc la permaculture. Enfin, il ne cite pas évidemment que la permaculture, hein. Il cite d'autres choses. Entre autres, peut-être vous en parlerez, donc ils vont à Détroit, où cette ville industrielle américaine qui, on va dire, s'est effondrée. En fait, les gens ont travaillé à une forme d'autonomie alimentaire. Donc, il y a des petites fermes qui se sont créées à l'intérieur de la ville, et c'est vrai. Voilà, on voit les images pour faire foi, d'une certaine manière. La permaculture, c'est quoi? Est-ce que l'un ou l'autre peut en dire un mot? Qui s'y connaît le mieux sur le sujet? Pierre Chastruis, est-ce que
je ne vais pas intervenir sous l'angle technique, mais effectivement, c'est la notion de durabilité. Ceci correspond à différents types ensuite de mise en œuvre. Il y a des agricultures. Tout à l'heure, vous parliez de Détroit, mais je pensais à l'instant, la banlieue de Kinshasa, c'est-à-dire l'essentiel de cette énorme ville africaine, effectivement, est en agriculture urbaine depuis déjà longtemps. Hein. À côté de la permaculture, l'agroforesterie, par exemple, bon, qui est une autre modalité qui amène à avoir à la fois des arbres, est pratiquée très anciennement, donc en Afrique, en Amérique latine, où on a l'habitude d'abriter justement ce que l'on cultive à l'ombre des arbres. Alors, d'arbres.
La permaculture, est-ce que vous pouvez repréciser? Parce que alors, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est une agriculture permanente, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais laisser la parole à un spécialiste. Là.
Non, moi je vais être spécialiste. Enfin, la permaculture, ce n'est pas seulement pour de l'agriculture, nuls. C'est une philosophie de collaboration avec le vivant. Dans la durée, quoi. Et donc, c'est pas seulement une méthode de production agricole, mais c'est aussi une philosophie de vie.
Avant de partir sur la partie philosophique, juste expliquer ce que c'est. C'est-à-dire, c'est en quoi ça consiste.
Alors, c'est tout un ensemble de pratiques qui consistent à collaborer avec le vivant. C'est-à-dire, on va pas lutter contre la nature. Par exemple, on va pas labourer. On va plutôt construire un sol, enrichir un sol avec différentes méthodes, la culture en lasagne, enfin, etc., de façon à ce que, d'une part, on ait beaucoup moins d'efforts à produire, et puis d'autre part, de collaborer avec le vivant, c'est-à-dire on s'appuie sur la logique du vivant, plutôt que de forcer les choses, on va plutôt aller dans son sens, voilà. Et c'est toute une philosophie derrière, parce que si on va, si on prend le domaine de l'entreprise, par exemple, plutôt que de se tirer, d'être dans la compétition acharnée, etc., pour un résultat au final pas formidable, on va essayer plutôt de collaborer, de passer des accords, d'être dans un paradigme de partenariat. On passe d'un paradigme de domination de la terre, des autres, de la nature, à un paradigme de partenariat avec. C'est ça pour moi la permaculture.
Et ça marche puisqu'il y a des rendements très importants dans le documentaire. Il cite entre autres comme exemple, enfin il dit que en une année sur 1000 mètres carrés, en fait ils arrivent à une forme d'autosuffisance, en tout cas même à vivre et puis à vendre Et puis, autre exemple qui m'a frappé dans le documentaire, c'est qu'ils disent, et peut-être vous pouvez commenter cela, en fait, ils disent qu'on a tendance aujourd'hui à ne manger que certains produits, voilà, blé, maïs, riz, etc. Et qu'en fait, évidemment, la terre peut produire beaucoup d'autres produits, je ne sais pas quel est le terme exactement utilisé, comme de multiples baies. Enfin, il y a une manière de diversifier son alimentation à l'image de cette agriculture qui est extrêmement diversifiée et précautionneuse en fait de la terre sur un petit territoire.
Oui, je pense à l'instant à un légume que l'on n'utilise pas trop chez nous, qui sont les pois chiches, par exemple, mais qu'on utilise beaucoup donc dans les pays du Sud, Maghreb, etc. Et tout à l'heure, donc, on parlait d'un aspect durable. Cela amène également à ne pas, gaspiller à travers, par exemple, un élevage. Intensif, avec un gaspillage à la fois de produits qui pourraient nourrir les hommes, hein, et puis également donc des rejets de gaz à effet de serre. Et vous avez par exemple la possibilité d'avoir des protéines végétales qui remplacent avantageusement justement cet aspect donc de surconsommation de viande.
Alors, allez-y, parce qu'il faut qu'on avance. Patrick Juvenal, je vous en prie.
Je crois qu'il faut rajouter quand même quelque chose sur la question de la permaculture. À partir du moment où on dit que c'est un partenariat de la coopération avec le vivant, donc la terre, c'est qu'on n'utilise surtout pas des pesticides. Je crois que c'était quand même un élément important à dire. Vous savez que dans un litre, dans une bouteille d'un litre de vin, on peut aller jusqu'à 98 pesticides aujourd'hui, s'il n'est pas issu de l'agroécologie, de la permaculture ou du bio. Donc aujourd'hui, on est dans un modèle agricole qui, un, n'assure pas la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire de notre pays. Nous ne sommes plus autonomes aujourd'hui d'un point de vue de l'alimentation. Vous imaginez, on n'a que 4 jours d'autonomie alimentaire en France. La permaculture, l'agroécologie, c'est permettre aussi la logique des circuits courts, la relocalisation de l'économie, la création de nouveaux emplois et surtout ne plus être dans cette monoculture qu'on voit partout dans notre agriculture intensive et qui nous mène aussi vers un mur. Puisqu'il faut quand même savoir que aujourd'hui, l'agriculture française, c'est une agriculture du pétrole avec des intrants. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et que là, on a un champ, j'ai envie de dire, pas de recherche, puisqu'il y a plein d'initiatives qui montrent que sur le terrain, il y a des gens qui s'installent et qui font des circuits courts avec des écoles, des collèges, mais qui en même temps sont dans le partage. Je disais tout à l'heure qu'on est dans une crise de civilisation, le pape le relaie très bien, on est dans une crise de civilisation puisque le modèle qui est le nôtre aujourd'hui, c'est tout sauf un modèle du partage. Et la permaculture, l'agroécologie, c'est aussi une orientation qui est tout à fait pertinente pour mieux manger, créer des emplois et surtout voir notre environnement, pas que paysager, aussi relationnel, complètement différent. Et donc là, il y a un enjeu aussi important.
Alors, on va écouter maintenant un autre extrait qui fait écho à ce que vous venez de dire. Un extrait d'un certain, donc c'est une interview d'un certain Olivier de Schutter, qui est rien moins que rapporteur spécial sur les droits à l'alimentation auprès des Nations Unies, et qui explique qui donne son analyse donc au réalisateur du film, expliquant pourquoi en fait la plupart des gouvernements ne pousseraient pas ce type d'agriculture alternative.
Que veulent les gouvernements ? Les gouvernements veulent maintenir la paix sociale en s'assurant que les ménages vont dépenser le moins possible pour l'alimentation. Et dans des pays de l'Union européenne, par exemple, en moyenne, les ménages consacrent 12-13% du budget familial à l'alimentation. Si demain, on devait faire payer le véritable prix de l'alimentation aux ménages, en obligeant les ménages à payer les coûts sociaux, environnementaux, de santé publique qui résultent de l'agriculture industrielle qui est pratiquée, naturellement, il faudrait monter à peut-être 25-30% du budget pour s'alimenter. Et c'est quelque chose qui est politiquement tout à fait intenable. C'est la raison pour laquelle on continue de soutenir les agriculteurs les plus compétitifs, qui pratiquent un type d'agriculture dommageable, certes, pour la santé publique, pour l'environnement, etc., mais qui satisfait les attentes à court terme des politiques comme du public.
Alors cet Olivier de Schutter qui intervient un petit peu en amont aussi du film et qui donne un autre commentaire expliquant ou mettant en perspective et l'extrait précédent et ce que vous avez pu dire, disant qu'en fait à l'échelle du globe, il existe, comment dire, la plupart des produits alimentaires sont produits par des petites structures et non par cette agriculture industrielle. Alors peut-être il faut redire un mot de ça avant de commenter ce dernier extrait.
Oui, à la fois l'essentiel des agriculteurs dans le monde, effectivement, sont sur des petites surfaces. Hein, et ils produisent la plus large part donc de l'alimentation. Le problème, par contre, comme le relève bien Olivier de Schutter, c'est que ces agriculteurs ne sont pas soutenus par les politiques, hein, qui, je suis obligé de le dire, notamment dans les pays du Sud, pensent surtout aux populations urbaines. Parce que ce sont les populations urbaines qui vont faire la révolution si ils ne sont pas satisfaites. Bon, mais les résultats ensuite sont catastrophiques et on est dans des politiques à courte vue. Bon, notamment c'est la politique d'agriculture d'exportation. Hein, qui a des conséquences catastrophiques, notamment je pense au Brésil par exemple, hein, où l'agro-industrie du soja dévaste des milliers d'hectares, hein, et pas au bénéfice de la population. Mais c'est effectivement, c'est le problème, c'est de remettre d'aplomb justement les systèmes. Tout à l'heure on parlait de permaculture, mais on est dans des écosystèmes, il ne faut pas les laisser dériver comme c'est le cas actuellement.
Alors, un commentaire peut-être sur l'extrait qu'on vient d'entendre. Olivier de Schutter, en gros, moi je résume et vous allez commenter, ce qu'il dit c'est qu'en fait, si on relocalise en fait l'agriculture, comme c'est démontré dans le film, par différents voyages, enfin entre autres l'exemple de Détroit qu'on citait rapidement tout à l'heure, si on utilise à grande échelle en fait l'agriculture qu'on vient de citer, permaculture et autres, on augmenterait les coûts et donc ça peut avoir des incidences sociales ou politiques. Donc il y a quand même une conséquence pour tout à chacun. Il faudrait accepter de manger local, de pas avoir peut-être une alimentation si diversifiée et puis de payer plus cher.
Je suis pas certain que l'alimentation soit si diversifiée que ça. Hein. C'est même plutôt le contraire, parce qu'il y a des mécanismes de mode et de publicité qui justement poussent dans le sens de consommer ce qui est pas cher. Voilà.
Patrick, j'ai maintenant un commentaire sur l'extrait d'Olivier de Schutter.
Écoutez, moi je souscris tout à fait. Je suis d'abord moi un enfant de quartier populaire. J'ai été nourri à la grande surface et aux produits aujourd'hui que je récuse. Mais on ne choisit pas là où on est et le milieu dans lequel on vit. Ce que je trouve par contre désastreux, c'est que 1 kilo de tomates à Biocoop, à 4-5 euros le kilo, c'est désastreux socialement. Non pas par rapport à la qualité des tomates qui sont vendues à Biocoop, j'ai rien contre Biocoop, mais c'est la question de l'accessibilité aux bons produits aussi pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc il a raison. Il a raison de dire qu'il y a un enjeu social et économique. Pour autant, est-ce qu'on a essayé autre chose? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, il y a un manque, pardon, de volonté politique de relocaliser l'économie? Mais c'est très difficile pour faire en sorte qu'on ait des circuits courts, notamment pour baisser les coûts. On peut avoir un coût qui n'est pas à 5 euros le kilo de tomate. On pourrait avoir des coûts beaucoup moins importants. Parce que aujourd'hui, la grande difficulté, c'est qu'un petit agriculteur, un jeune agriculteur qui voudrait s'installer, ne peut pas le faire aujourd'hui parce que l'accès au foncier est difficile. Vous connaissez tous le système des AMAP. On est arrivé, j'ai envie de dire, presque au maximum du développement des AMAP. Parce que l'accès au foncier devient difficile. Et que le modèle des agriculteurs aujourd'hui, c'est la chasse à la politique agricole, aux primes de la PAC. Et donc, il faut aider les agriculteurs à être dans la transition. Moi, je ne jette pas la pierre à ceux qui, aujourd'hui, sont dans le système dominant de l'agriculture intensive. Je dis qu'il faut aider les agriculteurs, et c'est aussi pour leur salut. Il ne faut pas oublier qu'en France, vous avez un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Un agriculteur qui se suicide tous les deux jours. Vous avez 2,3 fermes qui s'arrêtent, des exploitations agricoles qui s'arrêtent toutes les 3 heures. On est dans un système qui ne peut pas continuer. Donc, les agriculteurs à qui on a dit qu'il fallait produire de telle et telle manière, je crois qu'il faut les aider, effectivement, à changer de braquet. Pour leur vie, pour leur qualité de vie, mais aussi pour la nôtre. Et on est dans un système qui fait que l'urbanisation est telle que le jour où on aura un litre de pétrole à 2,50 euros, 3 euros, parce que là, cette baisse qu'on a en ce moment, c'est un point virgule. Mais combien on va payer notre alimentation ? Sachez que tout ce que nous mangeons en ville n'est que le produit de transport. C'est le transport qui fait qu'on amène toute cette alimentation en ville. Et on continue à mettre des gens dans les villes aujourd'hui. Je viens d'apprendre qu'on a encore une exode rurale en France. Une troisième, une énième exode rurale. Il va falloir réagir de manière à ce qu'à la périphérie des villes, des gens puissent s'installer. Et quand on parle agriculture, obligatoirement, on doit parler d'habitat. Voilà. Et moi, enfant de quartier, j'ai décidé de vivre en habitat léger parce que c'est aussi une perspective pour les jeunes agriculteurs qui voudraient faire de la culture vivrière, mais qui n'ont pas les moyens aussi de créer leur logement ou d'investir dans leurs moyens de production.
Alors, on parlera éventuellement, on va faire une pause musicale pour digérer un petit peu tout ça. Évidemment, on incite surtout nos auditeurs à voir ce documentaire demain, s'ils doivent nous quitter maintenant. Et puis, on va reprendre, entre autres, sur un autre volet, le volet énergétique. Peut-être qu'on aura le temps de parler du reste. Enfin, on fera au mieux.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
Ce matin, donc, une émission demain, le docu sur le monde de nos enfants. Donc, demain est donc un documentaire sorti en 2015, je le disais en introduction de cette émission. Documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a reçu en 2016 le César du meilleur film documentaire, qui en est à plus d'1 million d'entrées en France, et qui donc fait le choix, après avoir pris le soin d'expliquer en introduction qu'une partie de l'espèce humaine pourrait disparaître à horizon 2100. Et c'est pas une lubie de réalisateur, puisque c'est une étude qui est sortie en 2012 dans la fameuse revue Nature, qui fait le choix donc de faire un tour du monde des gens qui se mettent en route pour s'adapter à cette crise écologique et pour imaginer donc le monde de nos enfants. Alors on a parlé donc dans cette première partie de l'alimentation. Et après, il y a d'autres volets. Alors ils enchaînent avec l'énergie. Je propose qu'on commence par un extrait. où ils sont allés entre autres à La Réunion pour voir comment l'île de La Réunion a commencé sa transition énergétique.
Sur l'île de La Réunion, 35% de l'énergie est déjà produite par des sources renouvelables. L'objectif est de parvenir à 100% d'ici 2025-2030.
L'île de La Réunion a très vite pris conscience de la nécessité d'aller vers les énergies renouvelables. Pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons économiques. Il ne faut pas se leurrer. Les énergies fossiles, les énergies carbonées sont extrêmement chères sur des zones non interconnectées, isolées comme les îles.
L'île est petite, très peuplée et habitable principalement sur ses côtes. Le problème est de pouvoir à la fois construire, nourrir la population et produire de l'énergie solaire.
L'idée nous est venue d'essayer de partager l'espace entre les énergies renouvelables et l'agriculture, pour ne pas avoir à choisir et arbitrer entre agriculture et énergie.
L'agri-énergie utilise des serres où le sol est consacré à l'agriculture et la moitié du toit à la production d'électricité. Ces serres protègent les cultures des ouragans, permettent de récupérer l'eau de pluie et de rendre les sites autonomes en eau. L'entreprise Acuo les met gratuitement à disposition des agriculteurs en échange du droit d'exploiter les toitures. Un partenariat gagnant pour tous.
Acuo a appliqué le même principe autour de la prison du port, où la friche industrielle a été remplacée par des serres de maraîchage, des ruches, un arboretum et une centrale solaire qui alimente 12 000 foyers. Les détenus y apprennent à faire pousser des légumes et à construire des panneaux solaires. L'objectif est de les réinsérer dans des métiers dont on aura besoin dans le futur.
Voilà, la coupure est un peu nette. Voilà, c'est les contraintes techniques. Je sais pas, vous avez un commentaire l'un ou l'autre. Enfin, moi j'ai trouvé que cet extrait était, enfin, très beau. Surtout, il finit sur cette. Il y a presque une logique sociale en fait à cette transition écologique. Est-ce que ça vous inspire un commentaire? Éventuellement, est-ce que vous voulez parler des autres exemples aussi qui sont cités dans ce documentaire? Je pense à Copenhague ou à l'Islande, etc. Eric Sanner.
Oui, enfin moi, ce que ça m'inspire, c'est que tout est relié, quoi. C'est-à-dire les solutions, elles sont pas comme on essaye souvent de nous le faire croire, des solutions partielles, très très spécifiques, spécialisées. En fait, les vraies solutions sont des solutions globales, intégrales, qui intègrent à la fois la dimension, par exemple ici, de l'alimentation, de l'énergie, de l'emploi, du partage, de la richesse, de la démocratie. Il y a vraiment une question de trouver des solutions globales avec les citoyens aussi. Il y a ce côté participatif. Toutes ces solutions-là, on veut souvent nous faire croire que les solutions vont être technologiques, etc., qu'on va sauver le monde par la technologie. Évidemment, la technologie, elle fait partie de la solution, mais à condition qu'elle se soit que les citoyens se l'approprient, que ce soit dans une démarche co-construite, voilà. Et ça veut dire de l'éducation, parce qu'on parlait tout à l'heure là des agriculteurs, et c'est pareil, il y a un problème d'ignorance fondamentale, de peur, donc il faut aller vers les gens, expliquer et rentrer dans une démarche positive, constructive, avec les citoyens. Voilà. Alors, et c'est ça que nous on défend.
Pour autant, en fait, ce que décrit le documentaire, c'est un monde de l'après-pétrole, ou en tout cas c'est pas un monde de l'après-pétrole, c'est comme un monde parallèle, et avec donc des énergies renouvelables qui font leurs preuves. Alors c'est pareil, dans la tête des gens, il peut y avoir parfois quelques réserves ou des regards dubitatifs. Il suffit d'en parler, je sais pas, au café ou avec des amis, et puis on entend ceci sur les éoliennes, ceci sur les panneaux solaires. Voilà, est-ce que ces sources d'énergie alternatives, elles existent, et est-ce que les résultats sont probants et pourraient être beaucoup plus généralisés? Pierre Chastrus.
Oui, je crois que l'objet du film, c'est une histoire qui fait du bien. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que l'on a dit donc auparavant sur la crise, c'est de dire qu'il y a un possible et qu'il est d'ailleurs déjà à l'œuvre. Et justement, par rapport donc à ces questions donc d'énergie, il y a, on le sait effectivement, des techniques qui viennent à maturité maintenant. On n'en est pas au Moyen-Âge.
Donc lesquelles alors?
Le solaire, l'éolien, la biomasse.
Mais on entend dire que le solaire, en fait, il y aurait des composants qui ne seraient pas bons et donc ça poserait des problèmes de recyclage.
À chaque fois, effectivement, des difficultés donc à traiter, mais qui peuvent être traitées, Hein. Bon, également, on entend que les éoliennes, ça fait du bruit, que, etc. Bon, à chaque fois, également, il y a une part là-dedans
à entendre,
hein, et justement, ne pas faire preuve d'un autisme, comme c'est le cas souvent quand on balance un programme à tel endroit ou à tel autre, avec les rejets que l'on connaît de la population. Hein. Par contre, c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé dans ce témoignage de la Réunion, c'est que de toute façon, c'est quelque chose donc, qui est notre avenir, parce que la Réunion est une île. Donc, elle ne peut pas compter, comme nous, on le fait en surabondance, avec des choses qui viennent juste d'à côté, etc. Et donc, par rapport à ça, incontestablement, je crois qu'il y a une prise de conscience, et il faut qu'elle se développe sur l'économie d'énergie, d'abord, parce qu'il ne faut pas focaliser sur le miracle qui va arriver, etc. C'est d'abord ce que l'on a économisé comme énergie, et de ce côté-là, les possibilités sont extrêmes. Mais sur là où effectivement ça coince certainement, c'est peut-être sur le plan de l'énergie consacrée à la mobilité, où effectivement là on a encore des prises de conscience, même si effectivement le covoiturage se développe, il doit se développer, enfin il faut faire preuve d'imagination dans tous les domaines.
Alors j'ai relevé entre autres ce chiffre qui est cité dans le documentaire. Un intervenant m'a dit que 80% de l'énergie en fait consommée est liée au transport, à la climatisation et au chauffage. Donc on peut imaginer alors qu'on peut avoir toujours besoin de se chauffer. Climatisation, c'est vrai qu'on peut peut-être faire des efforts, et transport aussi. Est-ce que vous avez aussi un commentaire, Patrick Jiménez? Je me permets aussi de citer un autre exemple pour alimenter la conversation. Ils vont aussi à Copenhague, voilà, preuve qu'il n'y a pas que l'île de la Réunion qui s'y est mise, où depuis 1995, en fait, la ville a diminué sa consommation d'énergie de 40%, et à 2025, la ville vise une autonomie énergétique, et à l'échelle du pays, ils annoncent 2050. Donc c'est possible, ça existe. J'imagine que vous avez d'autres exemples, peut-être, Patrick Gémenin.
Moi, je pense que oui, c'est possible. Il y a beaucoup de territoires qui démontrent que l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique sont possibles. Je crois qu'il faut vraiment pas séparer les deux choses. Vous savez que toutes les guerres actuellement dans le monde sont des guerres géopolitiques liées essentiellement à la question énergétique. C'est l'indépendance énergétique des États-Unis qui est en jeu en Irak, par exemple. Quand on parle de la Libye ou même de ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, derrière le rideau de ce qu'on nous présente au quotidien, c'est bien la question énergétique. C'est un enjeu mondial crucial où on est prêt à tuer son voisin pour obtenir l'énergie dont on a besoin. Pour obtenir l'énergie qui alimente un système que nous voyons tous aujourd'hui, qui est fait d'accélération, de vitesse de plus en plus importante, hein, où on perd le sens de notre vie.
Alors pour la Syrie, on peut peut-être faire que la précision, c'est que d'aucuns disent que la crise syrienne, c'est justement, la Russie aurait besoin de la Syrie comme d'un lieu d'accès à ses gazoducs, et que ça serait une des raisons pour lesquelles aussi la Russie serait rentrée dans ce conflit. Faire cette précision.
On va pas faire un focus la Syrie, mais en fait, il y avait deux options pour le pipeline en Syrie. Et comme par hasard, le président syrien choisit une option qui n'était pas l'option ni de l'Arabie Saoudite, ni des États-Unis, ni du Qatar. Et comme par hasard, la révolution syrienne, qui était d'abord une révolution qui a démarré à partir d'une crise alimentaire, ne l'oublions pas, à cause d'une crise climatique. C'est-à-dire la sécheresse a fait qu'il y avait eu un problème d'alimentation, et c'était une révolution non violente. À partir du moment où le président de la Syrie choisit le pipeline qui n'était pas le pipeline de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des États-Unis, comme par hasard, cette révolution non violente est devenue violente. Comme par hasard, on a armé les gens. Donc la question énergétique, c'est une question centrale dans tout ce qu'on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce qui alimente le système qui finalement continue à nous amener contre le mur. Donc ce que j'ai envie de dire aux auditeurs...
Et donc ça existe, je veux dire, est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'à Copenhague ou à l'île de la Réunion? Est-ce qu'en France, il y a déjà des transitions énergétiques, je ne sais pas,
Mais il y a plein de gens qui aujourd'hui ont diminué, et avec 2 ou 3 panneaux solaires permettent effectivement couvrir le peu de besoins électrique qu'ils ont parce que ils ont changé de braquet. On n'est plus dans le tout électrique pour se chauffer.
Il y a des coopératives de citoyens qui ont monté des parcs éoliens, voilà, que donc autogérés, notamment en Bretagne autour de la ville, dans le bassin de la Vilaine. J'ai oublié le nom des villages, mais ce sont des initiatives. Il y a actuellement à Toulouse une initiative citoyenne pour une sorte de coopérative qui va financer la réalisation de panneaux solaires, d'éoliennes, etc., en mettant à disposition ses toits, les toits de ses maisons, etc. Donc ce sont des solutions qui sont en marche et qui existent et qui fonctionnent et qui sont des alternatives crédibles, c'est clair.
Alors, excusez-moi, on avance, Patrick Gévenin. Je voudrais qu'on écoute l'extrait de Pierre Rabhi, parce que le temps passe, et puis après, vous pourrez commenter, nous dire peut-être ce que vous vouliez nous dire.
L'une des aberrations du système mondial, c'est cette fameuse croissance économique indéfinie, qu'on invoque en permanence comme étant la solution, alors que c'est le gros problème. Gros problème, la croissance économique indéfinie, c'est qu'elle met en route une humanité insatiable. Et cette humanité insatiable, au lieu de percevoir la planète comme une merveilleuse oasis au milieu d'un grand désert sidéral dans lequel il fait bon vivre et que c'est un miracle, littéralement un miracle, elle la voit comme un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, au dernier arbre, etc. La différence entre le comportement animal et le comportement humain, c'est que le lion, quand il a mangé une antilope, il digère son antilope, c'est tout. Et moi, j'ai vu des documentaires, des lions absolument tranquilles, le troupeau d'antilopes qui passe tranquille, comme s'il y avait comme ils s'y ressentaient qu'il n'y avait pas de besoin, donc il n'y a pas de danger. Le lion ne saute sur l'antilope que quand il a faim. Il ne saute pas pour la détruire, ni pour l'engranger, pour vendre aux copains. Il n'a pas des entrepôts pour dire « Je vais vous éviter de chasser, moi j'ai des antilopes. » C'est là la différence, c'est que l'être humain, dans sa prédation, il passe par l'accumulation. Et il passe par la prédation accumulative. Et quelle est finalement, dans quelle finalité ? La finalité, c'est de gagner de l'argent.
Alors, est-ce que ça inspire pour l'un ou l'autre un commentaire ? Évidemment, c'est sûr, quand on entend ça, on se dit, il a raison, on a du mal à lui apporter la contradiction. Patrick Gimena, en tout cas, ça peut ouvrir sur la fin du documentaire, puisqu'hélas, l'émission va toucher à sa fin, il nous reste 5 minutes. Le documentaire ne s'arrête pas à décrire ce qu'on a fait trop rapidement, mais il faut voir ce documentaire, même si on peut garder son esprit critique, évidemment, ça ne se limite pas à l'alimentation, à l'énergie, il y a des suites, et la suite qu'aborde le documentaire, c'est une transition économique, politique et éducative. Alors Patrick Gimena, est-ce que l'écologie, vous citiez le pape François au début du texte, c'est vrai que le pape François... Il prend la question dans son ensemble. Il ne fait pas une encyclique sur la transition énergétique ou la transition alimentaire.
Oui, il montre la complexité de la situation, comme on disait tout à l'heure. C'est que la question écologique rejoint le social, la démocratie, la politique. Aujourd'hui, on nous a confisqué finalement la démocratie. Quand on regarde le spectacle, le piètre spectacle politique, pour ne parler que de la France, est-ce que nous sommes véritablement en démocratie ? Est-ce que, je disais tout à l'heure que il fallait une prise de conscience individuelle, mais qu'il fallait que cette prise de conscience individuelle soit aussi accompagnée de décisions politiques pour accompagner des initiatives. S'il y a des gens qui veulent effectivement s'installer dans une terre agricole et faire leur logement, il faut que les règles du urbanisme, par exemple, le permettent. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc, pour moi, il y a un enjeu majeur, c'est de se réapproprier notre propre destin. De se réapproprier la question politique, de réinventer des formes démocratiques qui ne sont pas aujourd'hui présentes. Peut-être d'aller vers une 6e République, de voir localement comment on pourrait imaginer la participation du plus grand nombre. Au niveau de l'énergie, il faut quand même savoir qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se chauffer, qui n'ont même pas les moyens de se chauffer. Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer à vivre avec des voisins qui, à côté, ne peuvent pas se chauffer ? Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à vivre avec des gens qui ne peuvent pas accéder à une bonne alimentation ? Ce déséquilibre-là aujourd'hui, ça doit être, je dirais, un enjeu crucial pour demain. Et beaucoup de gens démontrent au quotidien qu'on peut être dans le partage, qu'on peut être soucieux de son prochain, soucieux de l'avenir. Mais encore faut-il que celui à qui on ne donne jamais la parole puisse s'exprimer. Il faudrait des arbres à palabres partout. Il faudrait que les gens réapprennent le goût de la relation à l'autre. Je dis souvent que le lien qui nous lie est plus important que le bien qu'on échange. Le lien qui nous lie est plus important que le bien qu'on échange. Aujourd'hui, nous sommes devant des pathologies liées au pouvoir. La pathologie du pouvoir est en train de tuer aussi tout un tas de choses autour de la démocratie locale.
Alors, pardon, Eric Sanner, je voulais citer un dernier exemple pour faire écho à ce que vient de dire Patrick Jimena, parce qu'il est quand même frappant, il est cité dans le documentaire et ça étaye votre propos. Il cite l'exemple de l'Islande qui, en 2009, donc lors de la dernière crise financière internationale qu'on a comparée à la crise de 1929, où la population, en fait, s'est saisie d'elle-même. Alors, c'est vrai que, enfin, moi, pourtant, je suis l'actualité, j'avais pas vu les choses avec autant de détails. Il décrit donc cette population qui s'est saisie, en fait, du politique et qui, par une espèce d'assemblée citoyenne géante, a rédigé une nouvelle constitution. Et cette constitution, aujourd'hui, à court, en tout cas, et en voie d'application, parce que les choses sont un petit peu plus compliquées. En tout cas, c'est une initiative citoyenne à l'échelle d'un pays. Donc voilà, c'est pas que Patrick Jimena dans son coin qui nous fait cette déclaration. Il y a des gens qui, en tout cas, essayent de vivre une manière de réenclencher une démocratie plus directe. Eric Sanner, vous avez un commentaire.
Alors l'Islande, c'est 300 000 habitants, donc c'est à l'échelle, voilà, et je pense, si on pense que les sympathisants Colibri sont 250 000, on pourrait, si on était en Islande, faire ce type de révolution. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, alors, il y a ces espaces, ils existent, enfin, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de promouvoir, les gens sont absolument assoiffés d'échanges, de participer, d'être acteur, de se réapproprier ces thématiques, hein, de faire un jardin, d'essayer de contribuer à l'autonomie alimentaire, énergétique, de réfléchir à comment je vais habiter, avec qui. Nous, on promeut des oasis, hein, qui sont des sortes de d'habitat participatif. Bon, ce mouvement, il est énorme. C'est-à-dire, nous, on voit de toutes les couches de la société émerger des gens qui nous disent, voilà, on a envie de faire quelque chose ensemble, quoi. Et donc, ces espaces, ils existent. Aujourd'hui, il n'y a pas de traduction politique encore tout à fait solide au niveau du pays, mais il y a plein d'initiatives sur les primaires, la primaire.org, enfin, il y a plein de mouvements qui s'emparent de ces thématiques. Il y a l'exemple de Podemos, etc., en Espagne, qui n'est pas reproductible, à mon avis, tel quel en France, mais il y a une vraie dynamique, voilà.
Alors, pour finir, je cite donc deux rendez-vous. Donc côté CCFD, vous vouliez annoncer donc une soirée jeudi prochain à l'Ostalada, organisée donc...
Place Arnaud-Bernard, voilà. Par le Secours catholique, avec la projection d'un film qui ressemble beaucoup à Demain, qui s'appelle Culture en transition. Ouais. Et par ailleurs, pour Demain, n'hésitez pas à aller sur le site internet du film, parce que vous avez des dossiers qui sont très bien faits, avec des propositions.
Deuxième annonce, du côté des Colibris.
Oui, alors nous, on a une réunion mensuelle. La prochaine est le 23 septembre à 19h à la salle Sans Soubras, dans le quartier Saint-Cyprien.
À Toulouse. Voilà, merci beaucoup à nos invités d'être venus parler de ce documentaire. On rappelle son titre, un film à voir, même si c'est pour le critiquer. Demain, documentaire à voir, sorti en 2015 et primé cette année est déjà vue par 1 million de personnes. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.